Chicha.
Chicha.
Chicha,
c'est aussi le nom de la musique que nous interprétons. Chicha, c'est-à-dire la boisson de l'Inca, la boisson du peuple. Et c'est ce que boit le peuple, dans tous les sens du terme. On peut presque dire qu'ils boivent la chicha musique.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire mise en récit, mêlée à des archives et des musiques choisies. Chaque samedi de 19h à 20h et à toute heure sur franceculture.fr, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, notre histoire mettra ses pas dans ceux de montagnards parvenus aux marges d'une grande ville. Nous nous transporterons face à l'océan Pacifique, à Lima, au Pérou, au cœur de l'ancien empire Inca, colonisé par les Espagnols et où la musique avait toujours tissé des liens étroits avec les éléments, la faune, la jungle et les sierras. Or, vers les années 1950, une vaste migration avait conduit ces foules vers la capitale, poussées par le désir d'une vie meilleure. Leur musique, portée par l'apparition de la radio, s'était alors électrisée, prenant des accents psychédéliques pour constituer la bande-son de la nouvelle existence de ces déracinés. Dans cette histoire, on croisera l'arrogance d'une cité fleurie, un coup d'État, des coiffes de plumes de perroquets et des cavalcades radiophoniques. Ce soir, de la cumbia à la chicha, Lima ou le creuset péruvien. Là-haut, le soleil joue à cache-cache avec les feuilles des arbres dont les cimes sont agitées par le vent. Allongée à terre, parmi le grouillement des insectes, elle tente de retenir sur son visage chaque rayon de ce soleil chaud de début d'été. Sa respiration est lente, sereine, elle ne risque rien, elle est de retour chez elle, sur la terre de ses ancêtres. Elle a si peu l'occasion de revenir par ici, dans son village natal, à quelques heures de Cusco, dans cette immensité amazonienne. Pour elle, qui vit désormais à Lima, où le ciel, pendant les longs mois d'hiver, est si souvent bouché, gris, balayé par la garoua, cette mauvaise bruine qui charrie si peu de pluie, pour elle, ce soleil matinal et toute cette lumière sont une bénédiction. Elle n'a point besoin des préparations du chaman pour sentir la puissance des racines, parcourir son dos fatigué et, allongée seule dans la forêt, elle s'abandonne à la contemplation, tout là-haut, du soleil sur lequel se détachent, majestueux, les contours d'un condor. Ô majestueux condor, ramène-moi à la maison, dans les Andes. Je veux revenir à ma terre natale et vivre avec mes frères Incas.
Y te puede agarrar.
1968, El Diablo par le groupe Compa e Quinto, créé l'année précédente autour du guitariste Pancho Acosta et du chanteur Pepe Baroni. Mais le diable n'est pas dans le vol d'un condor au-dessus de la canopée. Le diable, comme chacun sait, se niche dans les détails. Commençons par poser le cadre. Le Pérou, situé au nord du Chili, bordé à l'ouest par l'océan Pacifique, strié verticalement des sierras de la cordillère des Andes et dont une jungle impénétrable compose l'essentiel du territoire. Le Pérou, ancien berceau de la civilisation Inca, mis à terre au XVIe siècle par la colonisation espagnole, laquelle avait établi à Lima, en haut d'une falaise dominant l'océan, une nouvelle capitale remplaçant la vieille cité de Cusco. Lima, qui était alors devenue la ville la plus riche du Nouveau Monde et au XIXe siècle, la locomotive de la nouvelle République péruvienne. Sachant que, ce milieu de XXe siècle, le Pérou est un pays composite rassemblant une population variée, répondant à une stricte hiérarchie. En haut de l'échelle sociale, on trouve ce qu'on appelle les créoles, descendants des Espagnols nés en Amérique latine. Eux sont l'élite, ils vivent dans les beaux quartiers de Lima. Puis viennent les métis, issus des unions entre Espagnols et autochtones, et qui constituent la moitié de la population environ. Et puis il y a les autochtones, les indigènes, aussi appelés serranos, quand ils descendent des montagnes. Enfin, on trouve le long de la côte les ambos, combinant origine locale et africaine. Jusque dans les années 40, à Lima, les indiens, les indigènes, n'ont pas le droit d'afficher leur identité. Sauf qu'il en afflue de plus en plus. Un immense mouvement de migration s'apprête à s'abattre sur la capitale pour en rebattre les cartes. 1969, le groupe Juaneco y su combo pour ce El Llanto de Ayay Mama, le cri de l'Ayay Mama, un oiseau très répandu en Amérique du Sud, mais que l'on entend guère à Lima, qui semble à certains égards coupé du reste du pays, comme l'expliquait l'historien et diplomate Yves Saint-Jour en 1986 sur France Culture.
Lima, c'est une ville où on peut complètement ignorer ce qui se passe d'une part dans les autres quartiers de Lima, d'autre part dans le reste du pays. C'est-à-dire que c'est une ville qui vit pour soi. De temps en temps, on voit peut-être dans les journaux qu'on a fait massacrer des paysans dans les Andes, mais tant que Lima ne l'a pas vécu, tant qu'il n'y a pas eu des coupures d'électricité parce qu'on a fait sauter des pylônes, Lima peut l'ignorer. Aussi, on voit que Lima était grande, mais que Lima a sérieusement perdu de sa superbe. Ce qui d'ailleurs crée chez les gens, des élites, ce qui crée des attitudes qui sont de l'ordre certainement du ressentiment. Et ce qui, à mon avis, pose des problèmes, y compris des problèmes politiques. Alors bien sûr, il y a la Lima des riches, la Lima du bord de mer, des grands immeubles et de ces maisons de toutes sortes. Et puis il y a l'autre Lima. La Lima pauvre, la Lima misérable. Puis surtout le désert, la poussière qui immédiatement prend la ville. Car dès qu'il n'y a pas d'eau, dès qu'il n'y a pas des jardiniers pour faire pousser des fleurs et de l'herbe qui pousse d'ailleurs très aisément à cause de la chaleur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout de suite que le désert, la poussière envahit tout. Et je crois que c'est peut-être ça la plus grande différence entre les deux Limas. C'est que dans la Lima riche, c'est un désert caché et recouvert de fleurs en quelque sorte. Et dans la Lima pauvre, eh bien le désert, il est là.
Le désert, célébré en 1969 dans ce titre signé du groupe Los Destellos. La cumbia del desierto, 1969, le groupe Los Destellos, le désert qui occupe la majorité de la côte péruvienne, parvenant dès lors jusqu'aux portes de la capitale, mais qui, depuis les années 1950, a tendance à reculer tant sont fortes les pressions démographiques. À cette époque, des montagnes, des dunes et des plaines qui entourent Lima convergent en effet des masses de migrants attirés par l'espoir d'une vie meilleure, un travail moins rude que celui de la terre ou bien la scolarisation de leurs enfants. Lima, dont la population qui s'élevait à 400 000 habitants, explose alors. Des dizaines, des centaines de milliers de migrants descendent des montagnes, surnommés les Andins, les Serranos, mais aussi, de manière méprisante par les créoles, les Cholos. Cette augmentation subite de la population génère des tensions que le gouvernement tente d'abord de juguler en embauchant les nouveaux venus dans des programmes de grands travaux. Surgissent de terre des bâtiments administratifs, des hôpitaux, des écoles. Les tensions sociales reculent, d'autant que le parti politique qui tente de structurer ces paysans indigènes, l'APRA, diffusant une sorte de marxisme-léninisme, ce parti est souvent interdit. Car cette émigration est très mal vécue par les élites traditionnelles de la côte, habituées à vivre entre elles dans le huis clos de la perle du Pacifique, comme on appelait jadis Lima, parmi ses bâtiments de style colonial, ses opéras, ses théâtres, ses églises baroques, ses larges trottoirs plantés de palmiers, dans cette ville qui avait survécu au tremblement de terre de 1746 et qui soudain, deux siècles plus tard, voit déferler des nouveaux venus sales et mal élevés. Pour ces élites créoles, principalement regroupées face à l'océan, dans les quartiers aisés de Miraflores, de Santa Isidro ou de Chorillos, cet afflux d'Indiens, c'est comme un nouveau tremblement de terre. Le multiculturalisme est vu comme une menace, tellement que, dès 1944, le président de la République instaure le 31 octobre comme jour de la chanson créole, la Canción Criolla. La chanson créole consistant essentiellement en des valses, des marineras, ces danses typiques de la côte, ou bien des polkas, interprétées à la guitare classique, aux castagnettes, parfois accompagnées d'une cajon, sorte de percussion et chantée à une ou deux voix. Puis, au début des années 50, la folie du mambo s'était emparée de la ville, remplacée quelques années plus tard par le merengue, la rumba, le guaguancho, le cha-cha-cha. C'est l'âge d'or des grands orchestres à l'américaine, mêlant ces rythmes aux sonorités jazzy et qui se produisent au Grill Embassy, au Pigalle, au Grill Bolivar, à Olympico ou au Negro Negro. Ailleurs, dans les quartiers périphériques, les immigrés écoutent et dansent, surtout lors des fêtes et des mariages, la Hueno, cette musique traditionnelle andine qui, sur des rythmes endiablés, célèbre l'amour, l'amitié, les joies et les peines. C'est cette musique qu'au milieu des années 1960, ces immigrés vont combiner aux sonorités venues de Colombie voisine et qui, d'abord instrumentale, ne cessera de muter pour exprimer l'existence de ces déracinés, la cumbia. Thank you. intitulée du nom de la musique cubaine, cette guajira psychodélica, cette guajira psychédélique signée en 1968 du premier grand groupe péruvien de cumbia, Los Destellos. La cumbia, donc, qui était d'abord apparue comme une musique de danse du temps de l'esclavage en Colombie, avant de se répandre à travers le continent sud-américain. Au Pérou, elle se diffuse parmi les milieux immigrés de Lima, ces provincianos, vivant dans les quartiers périphériques où, regroupés en fonction de leur région d'origine, ils s'évertuent à maintenir vivantes leurs traditions. Se retrouvant les soirs dans les coliseos, sorte de baraquements accueillant combats de boxe ou concerts, ou bien écoutant les musiques folkloriques diffusées depuis les années 1950 par un nombre croissant de stations de radio. Radio El Sol, Radio Inca, Radio Agricultura. Ces migrants de l'intérieur vont donc, dès la décennie suivante, dès 1960, teinter la cumbia colombienne de Hueño, leur musique traditionnelle à eux, cette musique des Andes, pour donner naissance à cette cumbia péruvienne qui devient la musique préférée des jeunes serranos de la capitale. Et ce même si cette cumbia péruvienne n'aura qu'un rapport rythmique assez lointain avec sa cousine colombienne, se définissant avant tout par son usage central de la guitare électrique, mais aussi de la basse électrique des instruments jusqu'alors réservés à l'usage exclusif du rock. Illustration avec l'un des groupes pionniers du genre, Los Destellos, les Étincelles, formés en 66 à Lima dans le district de Rímac, le fleuve qui irrigue la capitale, formé autour d'un certain Enrique Delgado, issu d'une famille métisse. Faisant la jonction entre les musiques indigènes et le rock, Los Destellos, qui sont tirés à quatre épingles, en costume et cravate sombre sur chemise blanche, se produisant d'abord le dimanche matin dans les ciné-théâtres vers 11h avant le début du film, ils enregistrent ensuite leur premier album en 68 sur le label Odeon del Perú, se contentant au début de morceaux instrumentaux jusqu'à ce que le groupe compose l'un de ses tubes les plus célèbres, Elsa, dont les paroles déroulent une bluette sentimentale. Elsa, tes yeux m'embellissent, m'hypnotisent, je te jure que je t'aime, que sans toi je mourrais si ton amour venait à disparaître. Alors j'enlève mes chaussures, je chante la cumbia et je danse. Regarde comme la plage t'appelle. Viens. France Culture, Jukebox, ce soir c'est pas le Pérou, mais quand même.
Mamá me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa.
groupe Los Destellos, les étincelles et les promesses enamourées d'Elsa qui, à sa sortie en 1970, se vendent à plus d'un million d'exemplaires. Mais hélas, les choses ne sont pas aussi simples que ne se le racontent ces grands sentimentaux que sont les Péruviens.
Este fue el pitazo mortal.
La vie est rude ces années 60. L'espérance de vie n'y est alors que de 50 ans, un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Lima est, on l'a dit, en pleine recomposition. On s'y entasse dans des bidonvilles surgies à flanc de colline ou sur d'étroites bandes côtières. Et tandis que les militaires s'emparent régulièrement du pouvoir, une jeune démocratie, instaurée par l'élection en 63 d'un civil, s'avère instable. Malgré les réformes lancées par le président Fernando Belaunde Terry, la création de routes pour désenclaver les régions du Nord, les travaux d'irrigation, mais aussi une politique de logements sociaux à Lima, des soulèvements de paysans ont lieu. Pour se divertir, sinon, il y a la musique traditionnelle ou bien modernisée. Et puis il y a le sport, et notamment le football, dont on trouve des terrains absolument partout et qui drainent des foules immenses et excitent les passions jusqu'à la folie. Ainsi, le 24 mai 1964, au Stade National de Lima, un match opposant les sélections amateurs péruviennes et argentines, match qualificatif pour le tournoi olympique, dégénère en fin de rencontre. À l'origine, la décision de l'arbitre d'annuler un but qui sauverait le Pérou. Deux supporters excités, parmi lesquels un proxénète notoire, pénètrent sur le terrain pour s'en prendre à l'homme en noir. La répression de la police à leur endroit génère un mouvement de panique dans le stade qui se poursuivra toute la nuit. Des bandes de casseurs traversent le centre-ville, brisent les vitrines des magasins, incendient des voitures. Ils attrapent deux policiers qu'ils battent et qu'ils pendent. Plusieurs centaines d'étudiants reviennent alors au stade et saccagent les installations. Dans la confusion, plusieurs dizaines de détenus s'évadent de la prison du palais de justice. Le gouvernement panique, redoute un coup d'État et décrète l'état d'urgence afin d'éviter de nouveaux débordements. Un couvre-feu est instauré. On dénombre au final 318 morts, faisant de cette catastrophe la plus grave de l'histoire du football. La chute du pouvoir, pourtant, viendra d'ailleurs. Archives France Inter, 3 octobre 1968.
Au Pérou, après le coup d'État militaire, le général Juan Velasco a pris la tête d'un gouvernement révolutionnaire. Le président en exercice, M. Belaunde Terry, a été exilé en Argentine.
C'est la nuit dernière, alors que la population de Lima dormait encore, que des éléments militaires dirigés par le général Velasco ont occupé les points stratégiques de la capitale péruvienne. En milieu de journée, il semblait que le coup de force avait parfaitement réussi sur le plan technique. Cependant, des incidents ont éclaté dans le centre de la ville et l'armée a dispersé des groupes de jeunes manifestants qui distribuaient des tracts invitant la population à la résistance.
Cette nuit d'octobre 68 a donc lieu un coup d'État. À sa tête, un groupe d'officiers mené par un général, Juan Velasco, un nationaliste de gauche, issu d'une famille de paysans, et qui se décide à renverser le régime du civil Belaunde Terry en plein scandale financier impliquant une compagnie pétrolière états-unienne. France Inter, deux jours plus tard, Ralph Pinto.
Enfin au Pérou, une fois signalé que l'atmosphère reste très tendue. Dans le centre de Lima, les forces de police ont établi des barrages. Le gouvernement, de son côté, a décidé d'annuler le contrat pétrolier qui le liait à une société américaine. Ce contrat avait été signé par l'ancien président Belaunde Terry, qui est maintenant réfugié en Argentine. L'ancien chef de l'État péruvien souhaite regagner son pays. Le peuple m'est toujours fidèle, dit-il, et ne soutient pas la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir.
Car 6 jours après le coup d'État, l'une des premières mesures prises par le général Juan Velasco est donc de nationaliser l'International Petroleum Company, une filiale de l'américaine Standard Oil, établie sur place en 1914 et qui depuis exploitait les gisements de La Brea et de Parinas au bord de l'océan. Or, depuis longtemps, cette exploitation des richesses du sous-sol émeut l'opinion. En août 68, le pouvoir péruvien s'était certes décidé à exiger de la compagnie la restitution de ses gisements. Cette dernière s'était d'ailleurs exécutée, sauf qu'avait filtré le fait qu'en retour, le président péruvien lui avait promis une indemnisation conséquente. Le scandale, largement relayé par la télévision, avait provoqué la chute du président et l'avènement d'un nouveau pouvoir militaire. les champs de pétrole où les employés gagnent bien leur vie mais gaspillent tant, comme le déplore un groupe qui se forme cette année 68 à Iquitos, une ville située dans la jungle, sur les bords du fleuve Amazon. Los Wemblers de Iquitos, dans cette danza del petrolero, cette danse du tanker, le roi de l'or noir. Le groupe Los Wemblers de Iquitos pour cette danza del petrolero, la danse du tanker. Après cette nationalisation du pétrole, le président Velasco, qui n'était, dit-on, ni amateur de rock ni de cumbia péruvienne, s'attaque à un autre dossier brûlant, la réforme agraire. Au Pérou, cette fin des années 60, 0,4% des propriétaires détiennent 75% des terres. Les rapports entre les propriétaires de ces immenses exploitations, les latifundios, et leurs travailleurs est quasi féodal. Les châtiments corporels sont courants. Le nouveau président souhaite donc mettre à bas tout ce système de production archaïque, à l'origine de fortes tensions sociales, afin notamment de développer le marché intérieur. En juin 69, la réforme agraire est lancée. Sur la côte, les plantations de canne à sucre de plus de 15 hectares sont confisquées. Afin d'en conserver la productivité, elles ne sont pas démantelées, mais leur gestion est transférée à des coopératives. Dans la montagne, le président Velasco veut favoriser les petites et moyennes propriétés. Les terres, aussi bien celles des grands domaines que celles des communautés indiennes, passent sous le contrôle de sociétés collectives. En quelques années, les trois quarts des terres cultivables sont administrées par des coopératives et la grande propriété a quasiment disparu. La cuenta, por favor.
Saludos, cerveza
paga la cuenta sin vergüenza.
Tu as de l'argent pour te payer des bières, mais pas pour régler le loyer, pour t'amuser, mais pas pour t'éclairer. Tu es en forme pour bavasser avec le voisin, mais pas pour préparer le repas. Alors paye la note, canaille, et el borrachito, si tu m'aimes, fais-moi danser. Paga la cuenta sin vergüenza, par l'autre grand groupe de cumbia péruvien, Manzanita, formé autour du guitariste autodidacte Berardo Hernández, issu d'une famille de paysans du nord du pays. Paye la note, à l'image d'un pays dont le nouveau pouvoir réformiste s'active sur tous les fronts, décidé à faire contribuer les plus riches, réalisant d'importants investissements dans l'éducation ou attribuant en 1975 un statut officiel à la langue quechua, la langue courante des Incas, jusqu'alors méprisée alors qu'elle était parlée par près de la moitié de la population. À Lima, dans les années 70, l'exode rural se poursuit. Les petits paysans, qui n'ont pas pu obtenir de terre à la suite de la réforme agraire, côtoient les serranos des montagnes, l'ensemble représentant dorénavant la moitié de la population totale. Les barriadas, les bidonvilles qu'ils habitent, fleurissent dans les moindres interstices. On ne les appelle d'ailleurs pas des bidonvilles, on préfère parler de pueblos jóvenes, les villes jeunes. Plus qu'un euphémisme, l'expression traduit une forme d'optimisme qui, malgré la rudesse des conditions de vie, traverse ces populations que les autorités laissent envahir collectivement les bouts de terre disponibles, même si c'est informel et franchement illégal. Du moins, cela permet-il à ces déracinés de se regrouper, de se serrer les coudes, de mutualiser ce qu'ils possèdent, l'ensemble maintenant une relative paix sociale. Dans la journée, beaucoup gagnent leur vie comme artisans, comme conducteurs de bus ou comme vendeurs ambulants, étalant sur les trottoirs des rues principales fruits, sodas, cigarettes ou confiseries. Les femmes, elles, font des pâtisseries qu'elles tentent de revendre. Les enfants sont mis à contribution. Culturellement, ces migrants se nourrissent de la cumbia péruvienne, que l'on se met à appeler d'un nouveau nom la chicha, du nom de la boisson alcoolisée à base de maïs fermenté, jadis prisée des Incas. Cette musique que diffuse à partir de 1974 une première station de radio, Radio Oriente 560, émettant en ondes courtes une radio rachetée par Enrique Delgado, le leader du groupe Los Destellos que l'on entendait tout à l'heure, et qui place sa sœur Edith derrière le micro de plusieurs émissions. Cette dernière, grande gueule, crée au passage un nouveau style radiophonique, voix forte et débit ultra rapide qui se répandra largement les années suivantes. Archive l'anthropologue José Matos Mar au micro d'Alain Weinstein dans les Nuits Magnétiques sur France Culture en janvier 1986.
Hay conjuntos extraordinarios que los Chapis, por ejemplo.
Y se formé des groupes extraordinaires comme les Chapis, qui ont une audience impressionnante. Il y a 17 stations de radio qui transmettent de la musique chicha et deux à Lima qui transmettent tous les jours de la musique andine, ce qui est nouveau. Donc il y a une forte présence andine et ces groupes de chicha se produisent dans des locaux spéciaux, dans les chichodromes. Des fois, il y a un grand match de football avec les meilleures équipes, très important. avec 40 000 spectateurs, mais dans les chichodromes, à Campo Marte, il y a 60 ou 70 000 personnes pour danser la chicha. Pour moi, c'est un symbole. Ni une chose ni l'autre. Ils cherchent une espèce de fusion, un mélange, un symbole de ce qui serait l'identité péruvienne.
Cette danza de los mirlos par le groupe emblématique de la cumbia péruvienne des années 70, Los Mirlos, originaire de Moyobamba dans le nord de l'Amazonie et baptisé du nom d'un oiseau noir vivant dans la jungle. Musicalement, ces années 70, la cumbia péruvienne vit son âge d'or. À Lima, continuent d'affluer les petits paysans, aidés dans leur installation par des clubs, des associations, perpétuant leurs fêtes et leurs coutumes. Ces migrants se retrouvent aussi dans l'écoute des musiques de leur région d'origine, comme celles innombrables venues de la selva, la jungle qui recouvre tout l'est et le nord du Pérou. L'Amazonie, dont chaque ville semble alors produire ses propres groupes, comme celui que l'on entend en ce moment, Los Mirlos. Mais aussi un autre groupe qui connaît un immense succès, Juaneco y su Combo, formé, comme son nom l'indique, autour d'un certain Juan Wong, un claviériste psychédélique issu d'une famille de Chinois. Ce groupe indigène s'impose dès 1970 avec une chicha qu'il joue sur scène, arborant de grandes coiffes faites de plumes de perroquets, habillées de tuniques en coton, semblables à celles des Chipibos, le peuple indigène de leur région d'origine. Leur musique regorgeant d'ailleurs de références à la mythologie amazonienne et à l'ayahuasca, décoction de racines aux vertus curatives ou hallucinogènes. Chipibo en España, le groupe Juanico y su combo, 1973. Quelques années plus tard, 5 des membres du groupe succomberont dans un accident d'avion. Mais la cumbia péruvienne, elle, continuera de chanter l'amour, même celui éprouvé envers une écolière et qui nous parviendra jusqu'en France dans sa version lyophilisée. Pendant ce temps, d'un point de vue politique, le Pérou souhaite s'affranchir de toute dépendance, menant une politique d'inspiration tiers-mondiste. La réponse des États-Unis est cinglante, pression commerciale et diplomatique. En 73, le Pérou semble pourtant triompher du blocus financier imposé par Washington en négociant un prêt avec la Banque internationale de développement. Mais les déstabilisations du pouvoir persistent, tout comme les tentatives d'assassinat. En 1975, un nouveau général succède au dictateur Velasco, rompant avec la politique réformiste de son prédécesseur et collaborant à plusieurs reprises à la funeste machinerie de l'opération Condor. À ces macabres dessins du Condor, les enfants du soleil, eux, Los Hijos del Sol, préfèrent mêler sur fond de jazz, de folk et de musique afro-péruvienne des paroles légères, comme en témoigne en 1979 ce Cariñito, ma chérie. Cariñito par le groupe Los Hijos del Sol. Par la suite s'ouvrira alors une sorte de transition démocratique marquée par l'organisation en 1980 d'élections. L'époque sera également marquée par l'enveniment du conflit lancé contre le pouvoir central par un groupuscule communiste dirigé par un prof de philo fasciné par la révolution culturelle chinoise, le Sentier Lumineux. Le sentier dont la guérilla et sa répression par l'armée feront les 20 années suivantes près de 70 000 victimes. Quant à la cumbia péruvienne, si nombre de groupes que l'on a évoqués dans cette émission existent toujours, avec certes de nouveaux musiciens, le genre continue de muter aujourd'hui dans un subtil mélange de rock, de musique amérindienne, de salsa et de merengue, ne ressemblant à aucune autre cumbia du continent, faisant des petits jusqu'aux États-Unis avec le groupe Chicha Libre, fondé à Brooklyn autour des Français Olivier Conan et Vincent Douglas, qui poursuivent cette hybridation tropicale. Thank you.
cancha de mora y cancha, cancha de maíz. Chicha, chicha de maíz, con cancha, popcorn al vino. Chicha, chicha de mora y cancha, cancha de maíz.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox, ce soir de la cumbia à la chicha, Lima ou le creuset péruvien. La réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox. Vous pouvez également nous faire part de vos suggestions. Jukebox, c'est Chouchane Djergaillan et Antoine Villoz à la préparation, avec l'aide d'Annie Lozana à l'INA. À la technique aujourd'hui, c'était Jean-Michel Bernot, Agnès Catou à la réalisation, au micro Amaury Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Chicha, chicha de mora.